C'est vrai, je t'aime. Je t'aime, Jésus. Je t'aime. Oh oui, je t'aimerai toujours. Pour la femme accusée que des hommes ont jetée par terre devant toi. Pour la femme qui oignait tes pieds de ses larmes que tu n'as pas rejetées.
Passé, nous avions la visite de Michael Pivert, que j'avais baptisé il y a pas tout à fait un an, c'est ça. Et on parlait, enfin d'abord il a parlé avec Francis, et puis il lui disait qu'il n'avait pas encore été immergé dans le Saint-Esprit, qu'il ne parlait pas en langue, rien. Et Francis a dit, me demande et tu recevras. Et puis... Dans l'après-midi, il est venu, il m'a demandé de prier pour lui. On est allé dans mon bureau, je lui ai parlé. C'était 3h moins le quart. Quand j'ai fini de parler, de lui expliquer, j'ai dit maintenant, si dans un quart d'heure tu n'as pas reçu, on arrête de prier. Parce que la foi, elle se saisit, n'est-ce pas? Alors on a prié à moins 5, ça y est. Mais alors, une force, une puissance, quelque chose comme j'aime, vous savez. Très fort, très très puissant. Et je prie pour que ce garçon reçoive des dons autres que le parler en langue. Il parle en langue très bien, mais je voudrais qu'il reçoive d'autres choses parce que c'est un homme qui aime les gens et qui veut amener des gens à Jésus. Et il faudrait qu'il puisse avoir des guérisons et des révélations comme ça. Et je vous demande de prier pour lui. C'est un gentil frère, quelqu'un que j'aime beaucoup. Amen. Vous l'aimez bien aussi? C'est vrai, c'est bien. Eh bien, si tu nous entends, Michael, Dieu te bénisse aujourd'hui. On va lire Proverbe 25, verset 2, s'il vous plaît. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Jésus-Christ est le roi des rois. Pas le roi de... Jésus n'est pas le roi du roi Baudouin ou du roi je ne sais quoi. Il est le roi des rois, c'est-à-dire le roi de ceux qui règnent sur leur propre vie. Et si vous êtes quelqu'un qui règne sur sa propre vie, alors vous êtes un roi. Et Jésus est votre roi. Et la gloire des rois, c'est de sonder les choses, de découvrir les choses que Dieu a cachées. Dieu ne révèle pas les choses qu'il a cachées à n'importe qui, mais il les révèle à des rois. Et donc, ce matin, je voudrais vous parler de certaines choses. Nous sommes au début de l'année et je voudrais vous montrer certaines choses qui sont dans les Écritures et qui seront peut-être pour vous que d'aimables répétitions, comme disait notre ami Renaud, mais je pense que c'est nécessaire. Jésus, vous savez, a annoncé toute la vérité, des choses qui avaient été cachées depuis la fondation du monde. Et en fait, depuis que la connaissance du bien et du mal a usurpé le règne du principe divin créateur, depuis que cette connaissance du bien et du mal a affirmé le pouvoir de la matière, depuis que la connaissance de la force, de la fausseté et de l'insignifiance du pouvoir de l'esprit règne sur terre, parce que c'est ça qu'on pense, n'est-ce pas, c'est ça que les gens pensent en général, eh bien Dieu a caché beaucoup de choses que Jésus est venu révéler aux siens. Et puis il y a eu les âges des ténèbres, c'est-à-dire que des impies se sont infiltrés dans l'église de Jésus-Christ et finalement ils sont devenus majoritaires et Dieu a dû cacher de nouveau les choses parce que ce sont des choses qu'il ne faut pas que ces impies connaissent. Mes frères et sœurs, Dieu en ce moment se cherche un homme, une femme, ne serait-ce qu'un homme ou une femme qui, dans notre temps, conformera sa vie à celle de Jésus-Christ et proclamera la puissance de la connaissance, c'est-à-dire de la vraie science de Dieu. Il ne cherche qu'un homme et ou une femme pour le faire. Il ne faut pas s'illusionner, mes frères et sœurs. Celui qui boit à la source, c'est-à-dire qui boit à la coupe de Jésus le Maître, celui-là est béni. Et en même temps, toute la résistance à la vérité le suivra pas à pas. Alors, ça n'est pas un amusement. Ça n'est pas un amusement. On le sait. On s'engage pas à la légère. Celui qui boit à la coupe de Jésus, il va se voir haï par les pécheurs, et cela jusqu'à ce que la sagesse soit justifiée. Elle ne sera rendue juste que par les véritables enfants de Dieu qui non seulement parlent, mais aussi vivent ces choses-là et sont accompagnés par du miraculeux. Ce n'est pas parce qu'il nous arrive des bonnes choses et même des miracles qu'on est béni. Hein? Et ce qu'il faut, c'est, n'est-ce pas, parler, mais vivre les choses dont on parle. On se sait béni. Un des signes pour savoir si on est béni, c'est: est-ce que le monde vous hait? C'est ça. Le monde vous hait si vous vivez comme Jésus vivait, c'est-à-dire avec amour, avec sainteté, avec honnêteté, avec fidélité. Alors là, si le monde vous hait, vous pouvez être certain, vous êtes sur le bon chemin. Mais encore faut-il, il ne faut pas s'illusionner. Il faut être sûr qu'on vit comme Jésus. Si le monde vous hait, disait Jésus, sachez qu'il m'a haï avant vous. Mais voici, je suis tous les jours avec vous. Et quand il dit « je suis tous les jours avec vous », ça ne veut pas seulement dire qu'il est tout le temps avec nous, mais ça veut dire qu'il est de toute manière avec nous et dans toutes les circonstances avec nous. Mais la condition, c'est toujours si vous demeurez dans ma parole, si vous demeurez dans ma parole, si vous demeurez en Jésus-Christ, alors à ce moment-là, vous allez grandir dans les choses de l'Esprit et ne plus voir les choses qui se produisent avec les yeux des hommes et des femmes, des communs des mortels, mais avec les yeux de l'Esprit. Alors, ça ne veut pas dire, quand on grandit dans les choses de l'Esprit, qu'on n'a plus rien à faire avec la matière ou avec le monde. Non, ça signifie que vous n'êtes plus à la merci de la matière, vous n'êtes plus à la merci de ce monde. Votre compréhension de vous-même en Jésus-Christ vous rend plus réel déjà à vos propres yeux. Vous devenez plus formidable dans la vérité, à vos propres yeux. Et ça vous donne une position. Vous êtes dans la position de celui qui peut vaincre le péché, vaincre la maladie, vaincre les ennemis et même vaincre la mort, ne plus en avoir peur. Comment se présente Jésus à la sortie du tombeau? Eh bien, il était exactement comme il était avant la tragédie de la croix. Il est ressuscité et il s'est présenté aux apôtres et les apôtres l'ont reconnu. Et vous, étant ressuscité en Jésus-Christ, vous êtes la même personne en apparence, il n'y a rien de différent. Mais ceux qui vous voient et qui sont bornés ou qui sont incrédules, eh bien, ne voient pas l'Esprit qui est en vous, ne se rendent pas compte des choses de l'Esprit qui est en vous. Eux, ils ne voient pas ce qui a changé, mais vous, vous le voyez, vous le savez. C'est une intime conviction parce que vous avez une réelle communion avec l'Esprit de Dieu. Même beaucoup de chrétiens ne savent pas qui vous êtes en Jésus-Christ. Philippe me disait l'autre soir que des fois il est avec des gens et il se dit, les pauvres, s'ils savaient, il suffirait qu'ils me laissent parler un petit peu, ils apprendraient tellement de choses. Mais ils sont toujours en train de dire, moi je pense qu'à mon avis, ils ont des avis sur tout. En général, des avis qui piquent sur Facebook ou sur TF1. Voilà, bon. Mais ils ne savent pas, ils ne reconnaissent pas, c'est vous qui savez si vous êtes un enfant de Dieu ou pas. Eux, ils ne voient pas ce qui a changé, c'est l'Esprit. Et comme je vous disais, même beaucoup de chrétiens ne savent pas qui vous êtes en Christ. Ils sont un peu comme Thomas qui cherchait un sauveur idéal, un sauveur dans la matière et non un sauveur dans l'Esprit. Il pensait trouver une preuve en touchant Jésus. Alors Jésus s'est laissé faire, il a joué le jeu. Avec ces gens-là, Jésus joue le jeu. Et puis après, ils sont tout contents. Ah, j'ai touché, ah, je sais, ah, bon. Mais pour Thomas, Jésus est resté une réalité charnelle jusqu'au jour où il était immergé en Dieu. Et le problème, c'est que beaucoup de chrétiens, soi-disant immergés dans le Saint-Esprit, ne le sont pas. Ils sont soi-disant, ils ont eu une émotion. C'est encore la chair qui a été touchée. C'est encore des sensations qui sont produites. Et alors, ils regardent encore avec les yeux de la chair. Ils parlent en langue et s'imaginent qu'ils sont baptisés, immergés dans le Saint-Esprit. Pas du tout. La restauration des dons a été faite, mais le baptême dans le Saint-Esprit, c'est pas ça. Être immergé en Dieu, c'est pas ça. Ils veulent des preuves visibles, des preuves touchables de ce qu'ils croient être la spiritualité, mais qui n'est pas la véritable spiritualité. Ils doutent de vous. Ça, c'est le plus grand signe. Ça, c'est le plus grand signe. Parce qu'ils vous regardent avec les yeux de la chair. Or, l'apôtre Paul nous dit dans 2 Corinthiens 5,16 que nous ne regardons plus personne de cette manière-là. Même nous ne regardons plus Jésus-Christ. Et il dit que ceux qui ont connu Jésus-Christ selon la chair, ils regardent même plus Jésus-Christ comme ça. C'est quoi cet autre regard? Qu'un de ces chrétiens soi-disant baptisés dans le Saint-Esprit vienne me dire ce que c'est. Notre regard sur les autres, notre regard sur les circonstances et même sur Jésus ne doit plus être comme il était avant. Vous savez, croire dans la matière, c'est facile. Mais concevoir la substance de l'esprit, c'est tout autre chose, mes frères et sœurs. C'est tout autre chose. Alors, même si peu de gens voient par l'esprit, rien ne peut faire disparaître la connaissance de la science de Dieu ni l'immortalité. C'est ça la réalité, même si peu le voient. C'est pas important qu'il y ait beaucoup de monde qui le voit. C'est pas important qu'il y ait beaucoup de monde qui connaisse qui vous êtes. C'est pas important qu'il croit ou non que Jésus-Christ vit en vous. C'est pas important. Alors vous voyez, nos sens corporels, ils définissent comme les sens corporels des gens de ce monde, par exemple la maladie comme une réalité. C'est les sens corporels qui font ça. Mais l'Écriture sainte déclare que Jésus-Christ est chargé de nos souffrances et de nos maladies. Quel regard avez-vous sur votre maladie? Les sens corporels définissent ce que c'est que le manque. alors que les Saintes Écritures les nient le manque. On va me dire, oui, mais quand même, je sais bien que je suis à découvert sur mon... Les Saintes Écritures nient cela. Quel regard tu as? Quel regard tu as? La Bible nous enseigne, Jésus, Dieu le Tout-Puissant, enseigne que rien ne manque à ceux qui sont en Christ. Regarde-toi. Les sens matériels, ils produisent et ils soutiennent tout ce qui est matériel, tout ce qui est mensonger, tout ce qui est égoïste, tout ce qui est avili, ils le soutiennent, ils le défendent, ils touchent, alors ils disent, nous avons la preuve. C'est pas ça être un chrétien. Les gens qui marchent selon la chair, ils condamnent tout à la décomposition, tout. À cause de leur croyance. Mais pas nous, pas nous. Nous, nous sommes appelés à réduire au silence ce mensonge du sens matériel. Mais comment tu peux nier? Jésus a tellement nié le matériel qu'il a passé à travers les murs. Il a tellement nié le sens matériel qu'il a marché sur l'eau. C'est un modèle pour nous montrer. La mort, mes frères et sœurs, ça n'est pas normal. La maladie, ça n'est pas normal. Le Maître est venu et il a vaincu tout ça. Il nous a assuré que ceux qui croient en lui ne mourront pas. Même pas une seconde. Pas une seconde de perte de conscience. Non. Nous quittons simplement cet endroit pour aller dans un autre endroit pour vivre mieux. Alors les gens disent, oui, mais personne n'est revenu pour nous le dire. L'autre jour, j'étais dans la voiture et j'écoutais Philippe Bouvard. Et alors lui, il nie tout ça. Non, mais personne n'est venu et revenu. Là, 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 là. Ben, nous allons appeler le grand réanimateur, monsieur Intel, qui a écrit un livre au sujet des gens, vous savez, qui reviennent. Alors, racontez-nous, monsieur. Alors, cet éminent réanimateur explique des cas. Il y a, par exemple, un homme... Ils ont dû arrêter le faire mourir cliniquement, volontairement. Ils ont arrêté. Il n'y avait plus aucun signe de vie. C'était cérébralement, il était mort. Son cœur ne battait plus, ça c'est une évidence. Il était posé sur une table à côté. Et il n'y avait plus une réaction électrique, si vous voulez, dans son cerveau. Plus rien pendant une heure et demie, pendant qu'il était en train de trifouiller dans un coin de sa tête, parce qu'il y avait une poche de sang, etc., etc. Et au bout d'une heure et demie, ils l'ont fait revenir. Alors Bouvard dit, oui, mais ça, c'est les miracles de la science, ça prouve pas qu'il y a quelque chose après la mort. Il dit, oui, mais ce monsieur n'était pas inconscient. Il a pu nous décrire tout ce qu'on a fait, et il a dit tout ce qu'on a dit, il a montré quels outils nous avons utilisés les uns après les autres, parce que son esprit était dans la pièce et il a tout vu, alors que son corps était cliniquement mort. Et Philippe Bouvard dit, oui, mais ça, c'est encore un miracle de la science, ça ne prouve pas qu'il y a... Vous voyez, quand on veut pas, on veut pas, hein. Quand on veut pas, on veut pas. Mes frères et sœurs, pour nous, il nous faudra un autre corps pour pouvoir vivre avec Dieu. Pour le moment, on est dans celui-là, et c'est vrai qu'on est très en contact avec la matière, il faut qu'on apprenne à l'être de moins en moins. Si nous sommes gouvernés par Dieu, nous savons ce que c'est que notre corps. Ça n'est pas l'enveloppe de votre esprit. Votre esprit, il est illimité. Il n'est pas enfermé là-dedans. Simplement, votre corps, il manifeste la mortalité, ce qui va pourrir, mais qui va ressusciter par la puissance de l'Esprit. Il nous faudra un autre corps pour vivre éternellement avec notre Dieu. Ne regardez pas à ce corps mortel qui est le vôtre comme une preuve de votre existence, parce que votre corps, il vit, il bouge, et tout ça, il ressent les choses. Mais regardez avec votre intelligence renouvelée par la science de Dieu, votre intelligence, ça n'est pas de la matière. Les scientifiques sont très étonnés de constater donc ces morts cliniques qui reviennent. Alors, ils sont étonnés pourquoi ? Parce qu'ils sont incrédules. Ils sont incrédules. Et quand ils font des expériences comme cet homme qui parlait l'autre jour chez Bouvard, lui, il reconnaît, il dit « Maintenant, je sais qu'il y a une vie vraiment après la mort. » Et il a eu cette humilité de reconnaître ses erreurs passées, sa façon de penser d'avant. Et tous ces gens cesseront d'être orgueilleusement bornés. Nous, nous passons pour des doudingues, hein, parce qu'on croit des choses comme ça. On n'a pas besoin de toucher, on n'a pas besoin de voir, on n'a pas besoin de rencontrer, on n'a pas besoin d'écouter un témoignage, on sait. Les preuves scientifiques ne nous donnent aucune assurance, nous, on sait. Bon, si c'est prouvé par la science, c'est super, mais même si c'est pas prouvé par la science, on s'en fout. On sait, parce qu'on a un autre regard. Nous sommes des gens spirituels. Croyons-nous dans la réalité de la puissance de la matière, dans la puissance du mensonge, dans la puissance de la méchanceté, dans la puissance de la maladie, dans la puissance des démons, ou est-ce que nous croyons dans la toute-puissance de l'esprit, de notre esprit qui est en communion avec l'esprit de Dieu? Tout réside là. En quoi croyons-nous? Voilà, ça c'est fait, j'ai dit du mal des scientifiques bornés, et j'ai dit du mal des chrétiens charnels. Voilà, j'ai fait ma BA. Mais nous, mes frères et sœurs, qu'est-ce que nous devons être, nous qui appartenons à Jésus? Nous connaissons Jésus. Nous avons une relation vivante avec lui. Nous parlons ensemble. Nous ne faisons pas que de lui parler. J'espère que c'est votre vie. Une vie de prière, c'est une vie de conversation avec Dieu. Nous parlons ensemble et nous sommes en train de mûrir. Nous sommes en train de mûrir. Premièrement, ce qu'il nous faut, c'est connaître dans quel temps nous vivons. On sait très bien dans le monde en quel temps nous vivons. Si je demande à Samuel dans quel temps tu vis, par exemple maintenant, est-ce que Chantal Goya est à la mode ? Non. Voilà, il sait dans quel temps on vit dans ce monde, on sait. Ben, spirituellement aussi, nous devons savoir dans quel temps nous vivons. Nous ne sommes pas au temps de Noé, hein. Nous ne sommes pas au temps de Luther non plus. Connaître dans quel temps nous vivons, c'est connaître la prophétie qui concerne notre temps. Ce n'est pas s'illusionner au sujet de notre époque. Pour ceux qui nous écoutent là sur Révélation Bible et qui ne le sauraient pas, la prophétie qui parle de notre temps a été écrite sur un livre, c'est un rouleau, qui a été scellé. Il y a 7 livres qui sont scellés et il y en a déjà 4 dont le sceau a été cassé. Et nous sommes ce qui a été prophétisé, nous vivons ce qui a été prophétisé dans le 4e rouleau, sous le 4e sceau. On trouve ça dans Apocalypse 6, 7, 8. Chapitre 6, versets 7 à 8. Mais on ne peut pas comprendre ce qui est dit là, et on ne peut pas savoir que c'est pour notre époque, si on n'a pas l'autre bout de la prophétie. Tout cela, c'est caché par Dieu. Dieu ne veut pas le donner à tout le monde. Aujourd'hui, vous êtes sur Révélation Bible pour l'écouter, vous êtes ici à la chapelle pour l'écouter, vous pouvez le savoir. En Apocalypse, elle est incomplète, cette prophétie. Elle n'est complète que si elle est lue à la lumière de Matthieu 24, 9 à 14. Verset 9. Vous avez la montée de l'antisémitisme que nous voyons de nos propres yeux. Au verset 10, vous avez la trahison de certains juifs et même la trahison des chrétiens évangéliques à l'égard d'Israël et nous le voyons de nos propres yeux. Au verset 11, vous avez la montée des faux prophètes. Alors je pourrais m'étendre sur les prophètes hors christianisme. Je ne vais même pas parler, c'est tellement évident, de ces prophètes qui crachent leur haine contre Israël et qui massacrent les chrétiens. Savez-vous que 105 000 chrétiens sont morts, massacrés en 2012 par les messagers, les faux prophètes de l'islam déviant et terroriste? Je ne dis pas que tout l'islam est déviant et terroriste, mais je dis qu'ils ont quand même massacré 105 000 de nos frères et sœurs par leur message, ces faux prophètes-là. En 2012, je ne parle pas des autres années même. Je ne parle pas de ça même. Je parle ici des faux prophètes qui sortent du milieu de nous, qui sortent des milieux dits charismatiques. Je parle en particulier des faux prophètes qui sont à l'image de Benny Hinn, qui provoquent des catalepsies. Savez-vous ce que c'est que des catalepsies? Eh ben, je vous le dirai pas. Vous n'avez qu'à aller chercher dans votre dictionnaire et vous allez comprendre tout de suite qu'est-ce que c'est que ce mentaliste de Benny Hinn qui provoque des catalepsies. Il n'est pas le seul, il y a plein de gens qui peuvent le faire. Ça s'apprend. Faire tomber les gens par terre, vous savez? Qui perdent connaissance, mais quand même qu'ils ont conscience de leur corps. Et je parle aussi de toute cette multitude de faux prophètes, en particulier de ces faux prophètes africains, qui œuvrent par le mensonge, par la calomnie, par le vol, l'hypocrisie, la médisance, et qui sont possédés par des esprits, tenez-vous bien, de grenouilles. Ah bon? Qu'est-ce que c'est cette histoire? Ces faux prophètes ont une parole qui sort directement de la gueule du dragon, de la gueule de la bête, de la gueule du faux prophète. Non, je dis gueule, mais c'est le mot qui est écrit dans la Bible. Ce grand faux prophète diabolique commence à se présenter au monde, et tous ces petits prophètes là derrière, qui se font du pognon et qui roulent les gens et qui maltraitent les gens, qui ruinent les gens, tous ces faux prophètes là ont des pouvoirs religieux impies, des pouvoirs financiers corrompus, et ils entrent dans la politique pour participer au chaos organisé par les sectes secrètes. Ils sont trois esprits de démons, des esprits impurs semblables à des esprits de grenouilles. C'est ça l'Apocalypse nous dit dans chapitre 16. Ils peuvent faire des miracles qui sont mensongers. Par exemple, ce miracle de faire tomber les gens par terre. Quelle affaire! Mais beaucoup de gens sont séduits par ça. Des catalepsies. Et ces esprits parlent par ces faux prophètes qui voyagent dans le monde entier. C'est encore Apocalypse 16, 13 à 14 qui vous parle de ça. Tout ce que je viens de vous dire là, c'est dans Apocalypse 16, 13, 14. C'est maintenant. Saleté de faux prophètes qui essayent de séduire les chrétiens, et ils séduisent beaucoup de gens, nous dit Jésus dans Matthieu 24. Mais les élus ne se laisseront pas avoir. Un petit peu, parce qu'ils sont très séduisants, mais ils ne se laisseront pas avoir, ils se retireront. Alléluia! Quand on dit Alléluia, le diable est en colère. Voilà ce qu'il y a d'abord sous le quatrième sceau. Et puis, comme l'injustice grandit à cause de tous ces faits-là, l'amour du plus grand nombre se refroidit, nous dit Jésus. Les beaux serments d'amour faits devant Monsieur le maire, les beaux serments d'amour faits devant le pasteur ou le curé sont cassés, brisés par la méchanceté du manque d'amour et de l'égoïsme parfait. En 2010, 46,2% de divorces en France. Vous voyez quoi? Plus d'amour. L'amour s'est refroidi. Ah ben je l'aime plus. L'amour, c'est pas une histoire de sentiment. C'est un choix, c'est une décision. C'est quelque chose de une décision qui est prise et on s'y tient. Sauf en cas d'infidélité. Par contre, alors, vous avez tous les autres qui ne peuvent pas se marier, qui voudraient bien se marier. Et youpla! Les gens du même sexe vont pouvoir se marier, hein, avec la bénédiction des faux prophètes, théologiens du genre du troll que nous avons eu il y a quelque temps en arrière, là. Des trolls, des démons! L'apostasie, ça s'appelle. L'apostasie, voilà comment ça s'appelle. L'injustice, ce qui est injuste, ce qui n'est pas juste, ce qui est faux! Alors si eux peuvent se marier, moi je divorce et je me marie avec cette plante verte ou avec le perroquet, je deviens reine et j'épouse le roi. Si on peut aussi le mariage pour tous. Je suis contre le mariage gay, je suis pour le mariage triste. Vous m'avez suivi, hein, je plaisante un peu pour détendre l'atmosphère. Mais c'est une horreur ce que nous vivons aujourd'hui, une horreur. Et on est là, on voit bon. Et puis, ça continue la prophétie. L'évangile est annoncé partout pour que des gens soient sauvés, ça c'est sûr. Mais surtout pour servir de témoignage à toutes les nations, Matthieu 24, 9 à 14. C'est-à-dire que personne ne pourra dire « nous ne savons pas ». Il y a des endroits où je peux plus aller. Il y a des pays maintenant qui se ferment en Afrique et je peux pas aller. Par contre, on y va quand même. Avec Internet, on se faufile, on rentre partout, mes frères et sœurs. On a une augmentation d'audience sur Internet, c'est merveilleux. Gloire à Dieu! Merci Richie, merci Eric, merci à tous ceux qui participent à cette œuvre-là. C'est magnifique. Et puis on va encore plus loin dans le séjour des morts, on fait aussi un travail formidable. Merci à tous ceux qui participent. Voilà où nous en sommes, mes frères et sœurs. Et la mort, suivie du séjour des morts, sont lâchées. Apocalypse 6, 8, et des milliards vont mourir. Sont en train de mourir. Nous devons savoir dans quel temps nous vivons. Il y avait des écoles de prophètes autrefois, on leur apprenait à prophétiser. Apprendre à prophétiser, ça ne veut pas dire apprendre à se mettre en transe pour recevoir des révélations. Apprendre à prophétiser, c'est apprendre à savoir ce qui nous concerne, ce qui va arriver. Et pour savoir ce qui va arriver, mais il n'y a rien de plus simple. Vous prenez la Bible et vous priez le Saint-Esprit de vous montrer, vous priez le Père, pardon, au nom de Jésus-Christ pour que le Saint-Esprit vous montre la réalité de où nous en sommes. Pourquoi nous devons savoir où nous en sommes? Pourquoi? Eh bien, pour être sur nos gardes, premièrement, très égoïstement, pour être personnellement sur nos gardes, pour ne pas nous endormir. Parce que c'est vrai qu'on aurait tendance à s'endormir, lassé, fatigué, découragé. Moi, des fois, je suis lassé, fatigué, découragé. Là, les frères m'ont parlé, m'ont dit, Michel, il faudrait que ton message soit davantage connu. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Alors, il y a toute une organisation qui est mise sur pied pour faire des choses extraordinaires. Et c'est eux qui vont le faire parce que moi, je n'ai pas envie. Je suis lassé, fatigué, découragé. Alors, faites-le. Je suis tout à fait heureux que vous le fassiez. Faites-le. Et quand ça donnera du fruit, ben, je viendrai en bouffer un peu. Mais je vous promets, je suis lassé, découragé. J'en ai marre, comme dit Osborne. Pour le moment, je vais encore là où c'est possible en Afrique, mais la France, c'est fini. Je ne veux plus rien savoir. Ah, mais si vous arrivez à faire quelque chose, je viendrai vous donner un petit coup de main. Mais j'en ai tellement marre que je ne veux même pas essayer. C'est terrible d'être là, hein? J'ai envie d'aller dormir quand je pense à la France. Je n'ai pas envie d'aller faire du travail. Il faut veiller et prier avec efficacité afin de ne pas être séduit, possédé par ces esprits de grenouilles beaux parleurs et par le manque d'amour. Mes frères et sœurs, vous ne devez pas prier des prières qui vont contre ce qui est annoncé. Et ça, voilà pourquoi vous devez savoir dans quel temps nous vivons. Parce que quand vous priez pour qu'il y ait la paix en Israël, ben vous vous trompez. Il ne doit pas y avoir la paix en Israël. Bien sûr que nos sentiments, notre conscience de la matière, on voudrait bien qu'il y ait la paix parce que c'est logique, parce que c'est normal. Mais il ne peut pas y avoir parce que c'est prophétisé que ça va être l'horreur. Donc quand vous priez pour qu'il y ait la paix, vous n'êtes même pas écouté. Vous êtes charnel, c'est des prières charnelles. Pourquoi prier pour la paix alors que Dieu a déclaré la guerre à ce monde de ténèbres? Voilà que notre monde a rejeté Dieu de ses écoles, il a rejeté Dieu, les gens ne prient plus, ils ont trahi Dieu, ils ont abandonné les bonnes lois de Dieu pour faire ce qu'ils veulent. Eh bien, moi je ne prie même pas pour ça. Il faut les laisser. Ils ont suivi les faux prophètes, du mal organisé. Laissez l'ange de la destruction faire son boulot. Alors, vous pouvez juste prier pour que les prédestinés au salut ne souffrent pas trop en attendant le jour de l'Éternel, en Israël et dans le monde entier. Priez pour que les élus, pour ceux qui sont prédestinés au salut, ne souffrent pas trop. Il y en a qui vont souffrir. Il y en a qui vont souffrir. Mais priez pour que leur souffrance soit abrégée, priez pour qu'ils soient protégés. Ça, on peut prier, bien sûr. La moisson est mûre. La moisson est mûre. Les anges dans le ciel regardent et ils commencent déjà à faire de tri, à prendre des notes. L'ivrée est mûre. Elle dévoile sa nature d'ivrée. On voit son fruit. Si on ne regarde pas simplement avec les yeux de la chair, mais les yeux de l'esprit, on voit son fruit tout de suite. Le bon grain est mûr. Il dévoile sa nature de bon grain. On voit son fruit. Les anges sont prêts, mes frères et sœurs, à venir séparer les brebis d'avec les boucs. Les anges campent autour de ceux qui craignent l'Éternel, mais ils ont déserté la présence de ceux qui ne craignent pas l'Éternel. Et ce sont des esprits séducteurs qui campent là et qui donnent des fausses bénédictions, des semblants de miracles pour rassurer ceux qui se sont détournés. Ceux qui craignent l'Éternel savent ce qu'ils doivent faire. Comment ? En lisant les Écritures. Ils savent ce qu'ils doivent produire. Comment ? Par l'Esprit qui est en eux. Alors notre coupe déborde. Et ce n'est pas seulement une coupe de joie. Ce n'est pas seulement une coupe de joie, mais c'est aussi une coupe de sainte colère contre l'esprit impie et contre les suppôts de ces esprits impies. C'est une sainte colère. C'est pour ça qu'on en arrive à se fatiguer parce qu'on n'est pas fait. On n'aime pas la colère. Mais on est dans un temps où la colère de Dieu est prête à se manifester. Le péché du monde a atteint des sommets, même Sodome et Gomorre n'en était pas là. On a atteint des sommets, c'est quelque chose de phénoménal, c'est d'une monstruosité. La colère de Dieu, c'est... Vous savez, l'autre jour, je passe à la cuisine et Francis avait mis la cocotte minute, vous savez, et ça sifflait. Mais ça sifflait tellement fort que j'ai eu peur, j'ai appelé Francis, j'ai dit c'est normal, elle ne va pas exploser. Il me dit non, c'est normal. Mais avec Dieu, c'est un peu ça. La cocotte minute, mais ça va exploser. Là, ça va exploser. Et quand ça va exploser, mes frères, le jour de l'Éternel, c'est un jour grand et terrible. Grand et terrible. Alors, nous ressentons ça par l'Esprit de Dieu qui est en nous. Moi, ça me fatigue. Moi, ça me fatigue. Le jour vient où l'ivrée cherchera du secours et n'en trouvera plus. Parce que là encore, Dieu voit l'ivrée aussi au travers du sang de Jésus et répond de temps en temps aux prières. Mais viendra le jour où ce sera terminé. Leur nature est incompatible avec la nature de Dieu. Ils ne pourront plus faire semblant de se repentir. Parce que le temps est arrivé, mes frères et sœurs, où les efforts consisteront à abandonner réellement l'erreur. Je devrais dire, le temps est arrivé où les efforts consistent à abandonner les erreurs sous toutes leurs formes et n'avoir aucune autre conscience que celle de l'esprit du bien. Amen. Seigneur Jésus, je sais que ce message n'est pas très amusant. Je sais que c'est terrible, mais je ne suis pas là pour chatouiller les ailes de mes frères et sœurs. Je suis là pour les armer afin qu'ils puissent être forts dans leur combat personnel, dans leur combat familial, dans leur combat professionnel. Dans toutes ces relations qu'ils ont avec les gens de l'extérieur et aussi contre toutes les attaques démoniaques de ces esprits de grenouilles, contre tous ces faux prophètes qui sont là en train de tourner autour de nous et d'essayer de nous séduire et de faire du mal. Seigneur Jésus, je te prie que chacun, chacune se tienne fermement en toi, caché en toi, dans la sainteté. Merci Seigneur Jésus de nous aider dans ces temps de la fin, de ces temps difficiles. Au nom du Seigneur Jésus, je te prie de guérir nos malades, de donner les finances nécessaires à chacun ici pour qu'il puisse faire face à tous ses devoirs et puis encore donner davantage pour ton œuvre. Je te prie, Seigneur Jésus, de bénir réellement tes enfants qui te cherchent, qui t'invoquent ce matin. Ô mon Dieu, nous avons besoin de toi, nous sommes dépendants de toi. Je suis dépendant de toi, j'ai besoin de toi, nous avons besoin de toi. Viens à notre secours, afin qu'on fasse la différence entre ceux qui te craignent et les autres. Mon Dieu, réponds à nos prières, réponds à nos prières. Aide-nous à faire ta volonté au mieux que nous pouvons la comprendre. Remplis-nous de la force par ton Saint-Esprit pour que nous puissions accomplir cette volonté. Merci Seigneur Jésus, Merci de bénir chacun et chacune. Rentrez dans la louange, mes frères et sœurs. Louez le Seigneur notre Dieu. Rentrez dans la louange et glorifiez votre Dieu. L'Éternel vit dans la louange de son peuple. Il est là dans la louange de son peuple. Et il va ouvrir pour vous les écluses du ciel, pour vous donner ce dont vous avez besoin pour continuer jusqu'à son retour. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, soyez bénis. Loué soit l'Éternel. Alléluia. Que les musiciens s'approchent. Corazon de la manamaya. Inesun di mande de cobara d'astaya. Alle kinistubra de lovaya. Minato rosseisha. Merci Seigneur Jésus. Sois glorifié, mon Dieu.